me dis, comment faire court? Alors j'ai pensé à une anecdote professionnelle, parce que ce sont celles que je connais le mieux, après tout. Un beau matin des années 60, Hubert Beuve-Méry, le fondateur et le patron du journal Le Monde, a reçu la visite d'un de ses collaborateurs, anciens collaborateurs. Et après des années de bons et loyaux services, ce journaliste venait demander au patron quelques faveurs, une meilleure situation. Après tout, c'était bien normal. Et le patron lui a dit, « Mon ami, la récompense du travail bien fait, c'est le travail bien fait. » C'est à peu près ce que Jésus, il y a plus de 2000 ans, a répondu à Jean et Jacques. À peu près, à peu de choses près, mais tout est dans le « à peu de choses près ». C'est ce qu'il a répondu à Jean et Jacques. Ou, d'après Matthieu, à la Salomé, la maman de Jacques et Jean, qui était venue pour ces deux bons garçons faire cette prière, cette demande insistante à Jésus. Imaginez un peu la scène. Je reprends dans Marc 10. Nous sommes au début de la passion, au début des rameaux. C'est la joie, c'est la fête. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Tout va bien. Vous imaginez une rue de Jérusalem, la foule qui acclame Jésus, les disciples qui se pressent autour de lui, Jean et Jacques, qui sont Jean et Jacques des grands garçons, des grands adolescents, bien jeunes. Ils se faufilent, ils s'approchent de Jésus, ils l'escortent, ils l'encadrent, et puis ils profitent de la clameur, de la rumeur et du monde pour lui demander discrètement, eh bien, ce que nous avons lu et que je relis. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand viendra, quand tu seras dans ta gloire. » C'est une curieuse question parce que c'est un petit peu comme les enfants qui disent « Papa, j'ai quelque chose à te demander, dis oui !» avant même de connaître la question. Mais ça se passe comme ça. Et Marc est bien informé, semble-t-il, issu d'une communauté chrétienne de Rome. Il écrit juste avant la destruction du Temple en 70. Il dispose de la tradition orale, mais aussi de sources écrites, le récit de la Passion. C'est bien pour un journaliste, ce sont de bonnes sources. Et Marc ici a tout d'un reporter qui relate quoi ? Ben, qui relate un fait divers. L'arrivée de Jésus à Jérusalem, avec ses amis, l'attroupement, la joie, la fête, les rameaux. Il tend l'oreille, il raconte cette scène au cours de laquelle donc Jean et Jacques demandent une faveur à Jésus. Mais en 10 versets, pas plus, le reportage se transforme en message. En 10 versets, tout est dit. C'est un formidable abrégé, une espèce de concentré, de condensé de l'Évangile, où il est question de malentendus, comme bien souvent dans la Bible, où il est question d'un bouleversement, et puis aussi d'une révolution pacifique. Il y a eu des précédents. Il faut replacer cet épisode dans son contexte. Nous avons ici la troisième annonce de la Passion, la troisième tout de même. Une première annonce avait été faite au chapitre 8, une deuxième au chapitre 9, et voici maintenant la troisième dans ce chapitre 10. Ils étaient sur la route, je lis, ils étaient sur la route, montant vers Jérusalem, Jésus marchait en tête, devant ses disciples, troublés. Ceux qui le suivaient avaient peur. Il prit à part les 12 pour leur répéter ce qui devait lui arriver. Jésus, pour la troisième fois et solennellement, vient de prédire sa passion. « Voici que nous montons à Jérusalem, dit-il, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux docteurs de la loi. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. On se moquera de lui, on crachera sur lui, on le flagellera, on le mettra à mort, et après 3 jours, il ressuscitera. » Les choses sont claires, Jésus annonce ce qui va se passer. Et cependant, ça ne marche pas. Ces trois annonces de la Passion sont suivies de trois passages qui mettent en évidence l'incompréhension des disciples, pourtant qui le suivent depuis 3 ans, qui sont auprès de lui, qui l'écoutent. Au chapitre 8, c'est la réaction de Pierre, qui n'hésite pas à réprimander Jésus. Au chapitre 9, c'est la discussion entre les disciples pour savoir qui est le plus grand, et qui se termine pas très bien. Et maintenant, au chapitre 10, c'est cette demande de Jacques et Jean d'accorder une faveur, une place d'honneur à la droite et à la gauche. Visiblement, ils n'avaient pas compris qui était vraiment Jésus. Pas plus que la foule d'ailleurs, qui ne voyait en lui qu'un libérateur qui allait chasser, soulever le peuple pour chasser les Romains de Palestine. Et quant aux disciples, ils nourrissaient aussi cette espérance qui n'était qu'une illusion humaine. Cette mort annoncée, personne n'y croit. Cette mort annoncée, personne ne veut y croire. Ce n'est pas la première fois, je vous le disais, les malentendus, les quiproquos, les méprises sont nombreux dans la Bible. Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Jésus répète, vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas. Ce n'est pas qu'il manque de bonne volonté, ses disciples. Mais mettez-vous à leur place un moment. Ils accompagnent un homme, ils le suivent, cet homme fait des prodiges. C'est un homme courageux, populaire, jeune, qui annonce qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et ils sont prêts à prendre tous les risques pour lui. Comment ne pas envisager alors que leur soutien ne leur vaille un juste retour de leur dévouement? C'est bien normal. Jean et Jacques, les plus proches de Jésus avec Pierre, voient la montée vers Jérusalem comme le début d'un règne messianique. Jésus, nouveau roi, successeur de David, ils veulent l'être du côté du pouvoir, et on les comprend bien. Et pourtant, ce n'est pas ça qui est dit. Après 3 ans à cheminer ensemble, ils n'ont pas compris, et ce malentendu est assez poignant. Alors, demande insistante, Jésus répond par une question. « Le pouvez-vous ? » ?»« Et nous le pouvons, affirment ces deux jeunes garçons. » Ils le disent en toute liberté. Ils ne sont pas enrôlés, ils ne sont pas recrutés. Ils sont libres de le suivre, de boire la coupe ou de le quitter. Et là, tout de même, arrêtons-nous un instant sur cette question. Ils sont libres. Cette question de cette sacrée liberté réclamée, proclamée, et si souvent difficile à accueillir, à endosser et à vivre. D'ailleurs, Jean sera le seul à suivre Jésus jusqu'à la croix, et Jacques, le premier des 12, à mourir en martyr. Donc ils vont aller jusqu'au bout, librement. Jésus, cette fois, tente encore de leur expliquer pourtant. Il joue carte sur table, vous voulez partager mon sort, et il commence par l'avenir, leur dire ce qui les attend, par leur dire « Écoutez-moi, sachez bien où vous allez, dans quoi vous vous embarquez. Rappelez-vous que j'ai une coupe à boire et que j'ai un baptême dans lequel je dois être plongé, dans la mort. » Mais les deux disciples, en partisans, en supporters acharnés, sont sûrs d'eux-mêmes. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont reculer ou tourner le dos ou partir. Le combat ne leur fait pas peur, pourvu qu'ils arrivent à leur fin, pourvu qu'ils participent au pouvoir du Messie. Cela est très humain, très compréhensible. Il est question d'ambition, de pouvoir, de faveur, mais pas seulement, il est aussi question de confiance, de fidélité et de conviction. Quant à leur place, à la droite et à la gauche de Jésus, eh bien, c'est un échec. Ce n'est pas à moi de les accorder, leur répond Jésus. Jésus ne répond ni oui ni non. Il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce n'est pas en mon pouvoir. Et en cela, il est totalement homme, totalement humain. Il n'a pas les pleins pouvoirs, Jésus. À ce moment-là, il est là, avec ses amis, avec ses insuffisances, les limites des hommes, l'ignorance des hommes. Et Jean et Jacques se heurtent aux limites humaines de Jésus. Jésus n'a pas les pleins pouvoirs, il est homme. Mais Dieu y a pourvu. Ne vous inquiétez pas, après tout. Vos mérites n'y seront pour rien, nous le savons bien, nous, ici. Ils n'obtiendront pas de faveur, de salut, de bonne place, parce qu'ils le valent bien. La gloire de Dieu n'est pas des cosmétiques, si vous voyez ce que je veux dire. Dieu y a pourvu. Ce n'est pas un dû, c'est un don. Et puis Jésus fait face à l'indignation des 10 autres, qui ont vu Jacques et Jean murmurer à l'oreille de Jésus et se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui complote. Et alors, il se tourne vers eux, il parle du présent, il en appelle à leur expérience. Vous savez que ceux qui semblent gouverner les peuples les oppriment et que, les grands exercent sur eux leur pouvoir. Ceux qui semblent gouverner, dit Jésus, faisant sans doute allusion aux petits monarques tyrans roitelets de Palestine sous le protectorat romain. Et il poursuit, chez vous, c'est le contraire. Qui veut devenir grand sera votre serviteur, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa vie et payer pour tous. Pour servir, pas pour se servir, ce n'est pas la forme pronominale, c'est bien pour servir. Voilà une belle leçon de science politique, ou plutôt une belle leçon de conscience politique. Et il leur dit, bien maintenant, faites-en autant. Et de cette façon, que fait-il Jésus? Il met ses disciples sur un pied d'égalité avec lui. C'est quelque chose tout de même. Ses disciples et ceux qui le suivent sont au même niveau. Chez vous, c'est le contraire, il s'adresse à eux, vous avez compris, vous savez ce qu'est gouverner, ce qu'est régner, c'est servir. Quelle importance tout de même. Jésus met ses disciples au même niveau que lui. C'est plein de tendresse, c'est plein d'amitié. C'est épatant. Autrement dit, Jésus rappelle à ses disciples, vous n'êtes pas avec moi pour pantoufler dans le royaume de Dieu ou pour faire des selfies à mes côtés. Non, mais pour servir notre prochain, pour servir votre prochain, et peut-on envisager sérieusement de servir son prochain sans l'aimer? Je vous le demande. Et pour le reste, eh bien, ayons confiance en Dieu. Ainsi, d'une phrase, le Christ renverse toutes nos fausses valeurs. Il n'est pas de même parmi vous, bien au contraire, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Ce n'était pas l'usage à l'époque, ce n'est peut-être pas, toujours pas. Et celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Cela, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut rester tout au long de notre vie en situation de serviteur, mettant au service de tous les dons reçus de Dieu. Et cela implique que nous abordions chaque être humain comme digne d'être servi, donc d'être aimé. Alors nous, où nous situons-nous? Sommes-nous ici ce soir par obéissance, par discipline, par intérêt, parce que nous le valons bien, ou sommes-nous venus en toute liberté? Pourquoi faire? Pour recharger nos batteries? Appelé par une parole, soutenu par une grâce, animé par une foi en l'amour de Dieu. Et une fois nos soifs de fraternité, de solidarité, de réflexion, de beauté, de musique étanchées, que faire? Eh bien, il faut nous mettre à l'œuvre. Tout en sachant que de nos œuvres ne dépend pas notre salut. De nos œuvres dépendent la justice, la fraternité, la vérité, la liberté, la paix, tant soit peu. Et ce n'est quand même pas rien. Siéger dans la gloire de Dieu, ce n'est pas ce que Jésus attend de ses disciples, me semble-t-il. Non pas siéger, mais je préférerais, si vous me permettez, marcher dans sa gloire. Voilà ce qu'il nous propose, marcher dans sa gloire. Siéger dans sa gloire, ce n'est pas trôner, c'est vivre son évangile. Et plutôt que « à quoi bon ?», c'est dire « après tout ». Ce n'est pas siéger, c'est aller de l'avant. J'ai regardé ce que c'était l'origine étymologie du mot « gloire », qui en hébreu signifie « poids »,« charge ». C'est « Dieu se charge ». Nous prendre en charge, et celui qui a la gloire en impose. Il me semble que Jésus ne nous charge pas, il nous donne plutôt des ailes. Si nous sommes là, assemblés ce soir, c'est aussi parce que nous admettons que quelque chose qui existe nous dépasse, quelque chose nous transcende, quelque chose nous appelle, que nous ne connaissons pas bien. Disons une recherche pour les uns, une conviction pour d'autres, une espérance, un doute, un besoin. Je laisse à chacun d'entre vous le soin de répondre. Finalement, j'ai trouvé le tweet pour répondre, pour faire court. Je l'ai trouvé dans Paul, en Corinthien, lettre aux Corinthiens. Paul écrit, et ça fait moins de 140 signes, « Christ est à la fois puissance de Dieu » et sagesse de Dieu. Je crois que tout est résumé dans cette phrase. Christ est à la fois puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Quant à la gloire, il y a des moments dans la vie où il faut se dire comme Saint-Exupéry dans Pilote de guerre, ça regarde Dieu exclusivement. Et c'est ainsi qu'un fait divers devient un fait divin. Amen.